Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans Génération. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Nous sommes le jeudi 2 janvier 2020 et Génération, ça continue encore pour cette nouvelle année. On va parler de dispositifs pour les jeunes de 16 à 25 ans, comme d'habitude. Et au sommaire, aujourd'hui, vous allez découvrir une nouvelle structure partenaire de Génération. Ils étaient déjà là l'année dernière, c'est ALIA, l'association ligérienne d'addictologie. Alors on parlera de la structure en elle-même et des différents sujets qui seront abordés dans les prochaines émissions. Et puis, on accueillera Pascal du G&G Connecté Jeunesse qui nous dira tout ce qu'il faut savoir quand on part à l'étranger, notamment par rapport aux documents, donc le passeport, le visa, le permis de conduire international. Et puis, on fera le tour des dispositifs existants pour partir à l'étranger avec Erasmus, par exemple, le woofing, jeune fille au pair ou avec le PVT. Et puis, en fin d'émission, on réécoutera Luna, Marine, Emmanuel et Awen qui sont en service civique à Unicité. Ils nous parleront de leur mission cinéma et citoyenneté. Bienvenue dans Génération, à tout de suite. On commence tout de suite avec Marie-Yvonne Coate-Ivry, psychologue et coordinatrice jeune consommation au CJC ALIA, et Émilie Boidron, éducatrice spécialisée à ALIA. Elles sont venues nous parler de cette structure partenaire de l'émission. En quelques mots, qu'est-ce qu'une CJC ?
Alors, une CJC, c'est une consultation jeune consommateur. C'est un lieu d'accueil, d'écoute, d'accompagnement pour les jeunes de moins de 25 ans, c'est-à-dire pour les adolescents et les jeunes adultes. C'est un lieu où on peut venir parler de ses usages de tabac, d'alcool, de cannabis ou d'autres drogues aussi. On peut aussi venir parler de ses usages d'écran, de jeux vidéo, de jeux en ligne, par exemple les paris sportifs. Alors la CJC, ça s'adresse aux jeunes, mais ça s'adresse aussi à l'entourage, les parents notamment, mais ça peut être aussi un frère, une sœur, un ami, toutes les personnes qui viennent nous voir pour s'informer et pour parler de leurs inquiétudes. Donc cette CJC à Angers, elle est située dans les locaux du XAPA de l'association d'ALIA. Alors un XAPA, c'est un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie.
Qu'est-ce qui fait qu'un jeune prend contact avec votre CJC ?
Les jeunes adultes, ils viennent pour faire le point sur leur conso, qui les questionne et parfois qui peut leur poser problème. Certains se rendent compte que cette conso a des répercussions sur leur scolarité, sur leurs études. Pour d'autres, c'est l'approche du permis de conduire qui les inquiète ou bien des ennuis judiciaires. S'ils ont été contrôlés, par exemple, à l'occasion d'une fête, ou encore des difficultés relationnelles. Et pour les ados, donc les plus jeunes, ce sont souvent les parents qui nous sollicitent, ou d'autres adultes qui les entourent, comme les infirmières scolaires, un médecin généraliste, un éducateur.
Et comment ça se passe quand un jeune vient vous voir ?
Alors, ce qui est important de préciser, c'est qu'il n'y a pas de jugement, pas d'obligation. Et aussi, évidemment, c'est confidentiel et c'est gratuit. Les jeunes qui ont moins de 18 ans peuvent tout à fait venir nous voir sans l'autorisation de leurs parents. Dans l'équipe de la CJC, nous sommes plusieurs professionnels, des psychologues, des éducateurs, éducatrices, des infirmiers ou des infirmières. Quand on reçoit un jeune, d'abord on va prendre le temps de faire connaissance avec lui et de bien lui expliquer aussi ce que c'est cette CJC pour que le jeune se sente en confiance. Ensuite, l'idée, ça va être de faire le point avec lui sur ses consommations, de voir avec lui les problèmes que ça lui pose et qu'il veut faire évoluer ou changer. Ce n'est pas nous qui décidons ce qui est mieux pour le jeune. Notre rôle à nous, c'est d'accompagner ce jeune. Alors parfois, c'est vrai, il n'est pas du tout du même avis que ses parents et ça peut créer des conflits. Donc ça va être important d'écouter chacun pour aller trouver une solution commune. La CJC, finalement, c'est un peu ça. C'est un lieu pour en parler, pour prendre du recul et de la distance.
Et alors, de quelle consommation viennent vous parler les jeunes ? Est-ce que c'est surtout leur consommation de cannabis qui pose problème ?
Ah oui, c'est vrai que majoritairement, il est souvent question de cannabis, mais pas seulement. Les consommations d'alcool sont aussi très souvent évoquées, même si les jeunes, comme les parents, viennent souvent au départ plus pour le cannabis. On essaie toujours de faire le point avec le jeune sur toutes ses habitudes de consommation. Et l'alcool et le tabac, par exemple, ne sont pas des produits illégaux comme l'est le cannabis dans notre pays, mais pour autant, ils peuvent poser problème.
Et d'ailleurs, on a entendu parler du mois sans alcool, le Dry January. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est quoi exactement ? Ça veut dire qu'en janvier, on ne peut plus boire d'alcool ?
Alors, le mois sans alcool, c'est un peu finalement comme le mois sans tabac qui a eu lieu là en novembre. C'est l'occasion de se lancer un défi ou tout simplement de réfléchir à ses consommations d'alcool. Ça ne veut pas du tout dire que l'alcool est interdit en janvier. Chacun est libre. Mais comme l'alcool est un produit quand même dangereux, c'est important d'être au clair déjà pour soi avec ses habitudes de consommation. Des consommations excessives d'alcool, boire beaucoup d'alcool régulièrement à chaque fois qu'on sort, qu'on fait la fête, ça peut être risqué parce qu'on prend l'habitude de faire comme ça pour se sentir bien. Et c'est pareil avec le cannabis, on prend aussi parfois l'habitude d'en fumer le soir pour se détendre et puis petit à petit on se met à en fumer aussi pour s'endormir et au bout d'un moment on se rend compte qu'on n'arrive plus à s'endormir sans fumer.
Et si un jeune vient vous voir, comment ça se passe après ? Est-ce qu'il doit revenir à des rendez-vous ?
Alors on décide ça ensemble, de ce qui est le mieux pour lui. Soit on se revoit rapidement, ou bien on a besoin de temps, ou alors il reprend rendez-vous, ou il rappellera quand il aura besoin de revenir. Pour certains jeunes, leur envie c'est de diminuer leur consommation, soit de cannabis, d'alcool ou autre, et pas forcément d'arrêter. Donc dans ces cas-là, on parle de réduction des risques. Comment prendre soin de soi dans cette conso ? D'ailleurs, quand un jeune vient avec ses parents, on en parle aussi avec eux. En fonction des besoins de chacun, on propose des rendez-vous individuels, mais aussi des rendez-vous familiaux.
Et quand on consomme de l'alcool, du cannabis, du tabac, même si on consomme parfois beaucoup, on peut se dire bah, « c'est bon, je gère, je peux arrêter quand je veux, j'ai pas de problème avec ça ». Qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui pensent ça ?
Oui, c'est vrai, on peut se sentir au clair et ne pas du tout avoir besoin d'aide. On peut bien sûr aussi changer ses consommations sans venir dans une consultation jeune consommateur, et heureusement. Mais parfois, c'est pas si simple, et pour plein de raisons. Dans le doute, quand on ne sait pas trop si en fait on gère si bien que ça, on peut venir nous rencontrer. Ça permet de prendre le temps de poser un peu les choses. Et très très souvent d'ailleurs, les jeunes que nous rencontrons n'en ont jamais vraiment parlé, même avec leurs amis. Ici, comme c'est libre et confidentiel, on peut aborder toutes les questions qu'on se pose.
Et donc, où les jeunes peuvent-ils vous retrouver ?
Alors, la CJC d'ALIA, elle est départementale. Donc, ALIA, ça veut dire Association Ligérienne d'Addictologie. À Angers, elle est située au 8 rue de Landemort, à Cholet, 4 rue des Marteaux, et à Saumur, 150 rue des Prés. Et sur Angers, il y a deux possibilités. Soit prendre rendez-vous du lundi au vendredi, soit venir sur un temps d'accueil sans rendez-vous les mercredis et les vendredis, de 12h30 à 14h. C'est aussi possible de nous retrouver sur les réseaux sociaux, comme sur Facebook ou sur notre page YouTube, en tapant CJC ALIA.
Et donc on va vous retrouver dans les prochaines émissions de Génération. Quelles vont être les thématiques ?
Du coup, on abordera les usages d'écran et de jeu, les usages de tabac, la chicha, la vape, les usages de coke, l'alcool et la fête. Et aussi un sujet sur l'entourage, dans l'idée un peu comment parler de ses consos avec ses parents ou ses proches.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Pour la suite, on va faire une pause musicale avec le groupe angevin Dogs for Friends et leur titre Fat Boy. C'est tout de suite dans Génération.
Thank you.
C'était Dogs for Friends. Vous êtes toujours sur Radio G dans l'émission Génération. Et pour la suite, c'est Pascal French du J Angers Connecté Jeunesse qui va nous parler des voyages à l'étranger.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on va présenter plusieurs façons, plusieurs moyens de partir à l'étranger. Alors en dehors du voyage, on peut aussi aller travailler ou trouver un stage ou une formation. Mais il existe pas mal de dispositifs dont on va parler tout de suite. Tu vas pouvoir nous donner plus de détails. Et puis on parlera après des choses à penser quand on part à l'étranger, notamment le visa, le permis de conduire international, l'ESTA si on passe par les États-Unis, la carte européenne et l'assurance santé. Mais d'abord, on va parler des dispositifs pour partir à l'étranger. Il en existe donc un certain nombre. On va en détailler quelques-uns. Est-ce que tu pourrais nous les citer dans un premier temps ?
Alors, bonjour à tous. Ce que je vais commencer par faire, c'est aussi vous proposer de réfléchir à les questions qu'il faut se poser lorsque l'on souhaite partir à l'étranger, puisque c'est valable pour toute idée de départ à l'étranger, que ce soit pour étudier, travailler, partir comme volontaire. En général, quand on veut partir, c'est qu'on a des objectifs à atteindre qui peuvent être se perfectionner en langue, prendre du temps pour réfléchir sur son orientation, être curieux de découvrir un nouveau pays, des nouvelles coutumes. Et puis, il faut se poser la question également sur le temps que j'ai à y consacrer. Est-ce que je peux partir un mois, 6 mois, 1 an ? Est-ce que j'ai les moyens financiers pour assumer ce départ, c'est-à-dire tous les frais inhérents au départ à l'étranger, qui peuvent être bien sûr le billet d'avion ou de train, les prix des visas, l'hébergement, vivre sur place. Et donc, tout ça va déterminer un peu le choix du dispositif que je vais choisir, puisque en fonction de ces réponses, eh bien, je vais plutôt m'orienter vers un autre dispositif. En ce qui concerne les dispositifs pour partir à l'étranger, il faut savoir qu'il y en a qui permettent aux jeunes sans qualification particulière, c'est-à-dire sans diplôme, ni qualification, ni connaissance de niveau de langue important, peuvent partir à l'étranger avec certains dispositifs, comme par exemple le woofing, le PVT, le séjour au pair, le chantier de jeunes, etc. Tout ça, ce sont des dispositifs qui sont accessibles quasi à tout le monde. Les études ou stages à l'étranger, si vous partez dans le cadre de votre université ou de votre école, vous pouvez partir par le dispositif Erasmus. Et là, c'est avec le service relations internationales de votre établissement que vous voyez quelles sont les possibilités de départ, part en deuxième année, en licence, en master, avec également ce qui va avec, c'est-à-dire les bourses qui vous permettent de partir et d'être aidé. Dans le dispositif Erasmus, vous avez aussi le corps européen de solidarité qui remplace le service volontaire européen, qui permet donc du coup à des jeunes sans qualification, sans forcément connaître une langue étrangère, de pouvoir avoir une première expérience à l'étranger. C'est un dispositif qui est très encadré, puisqu'il faut une association de départ et une association d'arrivée. Donc l'association de départ sur le Maine-et-Loire, c'est les familles rurales qui propose ce dispositif. Vous avez également l'association Parcours le Monde qui propose un service volontaire dans ce cadre un peu plus court, puisque le corps européen de solidarité, c'est entre, on va dire, 2 et 12 mois, qui s'adresse à des jeunes de 18 à 30 ans et qui peuvent donc partir dans tous les pays européens. C'est un dispositif européen. Par conséquent, il y a une base de données européenne et vous êtes aussi en concurrence avec les autres jeunes européens sur ces missions. Vous avez aussi le service civique, qui est le dispositif franco-français et qui permet d'avoir des missions aussi à l'étranger en passant par le site servicecivique.gouv.fr sur lequel vous trouvez les missions aussi des établissements qui sont soit des associations, soit des établissements publics, pas du tout d'entreprises, qui ont des succursales à l'étranger et qui vous permettent aussi d'acquérir une compétence et des compétences en langue, mais en plein d'autres choses, à l'international. Pour les modalités, vous pouvez venir vous renseigner chez nous au J&G Connecté Jeunesse, où nous pourrons vous expliquer ces dispositifs-là.
Tu parlais du PVT aussi ?
Alors, le programme Vacances-Travail permet de découvrir un pays étranger tout en pouvant y travailler. Donc, l'obtention du permis ou du visa vous permet de partir entre 6 mois et 12 mois dans un certain nombre de pays que je vais vous citer, qui sont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Japon, la Corée du Sud, Hong Kong, l'Argentine, la Russie, Taïwan, le Chili, le Mexique, la Colombie, l'Uruguay, le Brésil. Donc, vous voyez, il y a énormément de pays.
Est-ce que c'est renouvelable ?
Alors, ça peut être renouvelable. Sur certains pays, on peut partir 2 ans, mais oui, la plupart, c'est autour d'un an. Alors, il faut bien se préparer à ce type de départ, puisque même si on ne vous demande pas de qualification professionnelle, on va notamment vous demander d'avoir un certain nombre de financement, c'est-à-dire il faut avoir par pays une somme sur son compte en banque que l'on peut prouver. Donc, vous trouvez toutes les informations sur le PVT sur le site internet qui s'appelle www.pvtiste.net, sur lesquels vous allez trouver toutes les conditions pour partir selon les pays, et les inscriptions se font en ligne.
On parlait aussi du woofing
Tout à fait, le woofing, c'est aussi un dispositif très simple qui permet d'avoir un gîte et un couvert contre une aide, une participation de travail auprès de particuliers ou d'associations ou aussi de fermes. Alors, à la base, c'était des fermes biologiques, surtout situées en Australie, Nouvelle-Zélande et Canada, qui proposaient, en échange de 5 heures de travail par jour, d'être logées et nourries et de participer à la vie de la famille, et de visiter aussi la région autour de soi. Donc maintenant, il y a beaucoup, enfin dans le monde entier, c'est possible de faire du woofing. Vous avez également le site principal qui regroupe tous les pays où on peut faire du woofing, qui s'appelle www.2w2of.net, et sur lequel vous avez les liens sur tous les pays pour partir en woofing. Donc là, c'est très simple. En général, il y a une cotisation à prévoir de 15 à 30 euros pour avoir accès aux informations des personnes qui peuvent vous héberger et vous faire travailler. Et en contrepartie, eh bien, vous avez 5 heures de travail par jour. Sur les sites aussi, vous avez d'autres sites, par exemple, qui renseignent. C'est le site Work Away et le site Help Exchange, sur lequel vous allez trouver les personnes qui peuvent vous accueillir avec le type de travail qu'ils vous proposent de faire. Vous trouvez tous les renseignements, c'est-à-dire sur les avis aussi qu'ils ont des autres woofers. Et puis, vous pouvez aussi savoir comment vous serez hébergé, combien de personnes peuvent être hébergées en même temps. Vous verrez toutes les photos aussi qui sont disponibles. Et du coup, en général, quand on voit les photos, on a déjà envie de partir.
On peut aussi partir en tant que jeune fille au pair ou garçon au pair.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est ouvert aux filles comme aux garçons, mais on voit bien que souvent, les familles préfèrent les jeunes filles, souvent parce que, bien sûr, c'est de la garde d'enfants dont il s'agit. Alors, c'est ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans. Bien souvent, les familles préfèrent les gens un peu plus âgés, c'est-à-dire à partir de 20 ans. La plupart des pays aiment bien aussi que les jeunes aient leur permis de conduire, et notamment pour les États-Unis, c'est une des conditions obligatoires pour faire le séjour au pair. Donc voilà, en contrepartie de ces gardes d'enfants, vous avez une indemnisation qui est prévue, et puis des cours de langue qui doivent être assurés par tout bon organisme qui vous envoie à l'étranger. Pareil, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à nous rencontrer. Nous avons également la liste de tous les organismes sérieux qui peuvent vous envoyer à l'étranger. On peut parler du chantier de jeunes à l'international, qui est aussi accessible à tout le monde, qui peut être accessible aux jeunes à partir de 16 ans s'ils souhaitent faire un chantier en Europe. En dehors de l'Europe, ce sera à partir de 18 ans. Ça permet aussi de rencontrer à l'intérieur de ces chantiers d'autres jeunes qui viennent d'autres pays du monde. Et donc, de pouvoir à la fois, bien sûr, il y a quelques heures de travail, mais on est hébergé, on est nourri, on a des temps d'animation et de détente. Et on peut aussi se perfectionner dans une langue étrangère, voire dans plusieurs, grâce à ce contact avec des jeunes. Vous avez dans les types de volontariat aussi plusieurs types de volontariat, le VSI, le volontariat de solidarité internationale, qui existe aussi, mais qui permet à des jeunes de partir beaucoup plus longtemps, puisque souvent le VSI, c'est quand même des départs sur 1 ou 2 ans, avec des qualifications qui peuvent être demandées, soit au niveau santé, soit au niveau logistique, etc., soit dans le soin des animaux. Nous avons également des associations sur lesquelles vous pouvez contacter pour avoir des renseignements. Et puis, vous avez le VIE, le volontariat international en entreprise, qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas du tout un volontariat, mais qui permet à des jeunes qui recherchent avoir des compétences professionnelles de partir avec des entreprises françaises qui ont des succursales à l'étranger, avec un emploi qui peut être de 1 à 2 ans, avec un emploi, bien sûr, qui est très bien rémunéré à l'international. Donc, c'est une première expérience à l'international.
Donc, tout dépend vraiment de l'objectif de notre voyage et de ce qu'on a envie de faire. C'est ce que tu disais, c'est vraiment la première étape. C'est d'abord réfléchir à ce qu'on a envie. Après, il y a tous ces dispositifs qui existent. Mais maintenant, on va parler des choses concrètes auxquelles il faut penser quand on part à l'étranger. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Alors déjà, quand on souhaite partir à l'étranger, la première chose qu'il faut faire, c'est faire le point sur ses papiers d'identité. Si je pars en Europe, la carte d'identité suffit. Mais vérifiez qu'elle est quand même valable, parce qu'il y a certains pays qui peuvent vous refuser l'entrée si elle est périmée. Pour les pays hors de la communauté européenne, il faut bien sûr un passeport. Et là, les délais pour faire un passeport peuvent être un petit peu longs, mais comme une carte d'identité, tout dépend de la période à laquelle vous le faites. Si vous le faites en ce moment, en décembre ou janvier, eh bien, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Mais si vous commencez à y réfléchir au mois de mai ou au mois de juin, ça risque d'être plus problématique. Donc, il faut toujours anticiper ces papiers-là. Ensuite, les visas. Les visas, ça va dépendre du pays. Il y a des visas qui sont payants et qui donc il faut en faire la demande en amont du départ. Donc, il faut que votre passeport soit déjà fait pour que vous puissiez avoir votre visa. Des fois, il faut même se déplacer sur l'ambassade à Paris pour avoir ce visa-là. Donc voilà, tout ça, c'est à anticiper puisque c'est des coûts supplémentaires. En ce qui concerne les autres papiers, bien sûr, en fonction de ce que vous voulez faire dans le pays, le permis de conduire international est important. Donc là, vous pouvez vous rapprocher de la préfecture pour savoir si
c'est
votre...
C'est eux qui peuvent délivrer un permis
voilà, qui peuvent délivrer, et puis qui peuvent vous dire si votre permis sera reconnu dans le pays où vous allez. Ensuite, nous, on a aussi, au JNG Connecté Jeunesse, des fiches très intéressantes par pays, qui vous détaillent un peu, pour chaque pays, si je veux étudier ou travailler ou partir en stage, déjà comment faire, mais aussi quels sont les papiers qu'il faut prévoir pour chaque pays, puisque bien sûr, chaque pays est différent. Les États-Unis ont des visas différents selon si vous venez en séjour au pair, si vous venez en woofing, si vous venez travailler, si vous venez pour les études, etc., ou si vous venez comme touriste.
Et même aux États-Unis, quand on y va, il ne faut pas oublier d'obtenir un ESTA, on appelle ça comme ça, c'est une autorisation de poser le pied sur le sol américain. Donc ça, c'est quelque chose à faire sur Internet. Il y a un délai de 24 à 48 heures. Je ne sais pas si tu as d'autres précisions là-dessus.
Oui, c'est tout à fait. C'est absolument important. J'ai vu que les délais étaient de 72 heures pour l'obtenir.
Ah, c'est ça, oui.
Mais vraiment, il faut y penser parce que sinon, on ne peut pas... mettre le pied sur
fait.
Le pays, on peut pas faire l'escale, et donc c'est très
ça
embêtant.
Peut être problématique, oui.
Voilà, donc c'est vrai que c'est très important de bien se renseigner au préalable et surtout d'anticiper lorsque l'on souhaite partir à l'étranger, c'est d'anticiper ces démarches. Il faut quand même entre 6 mois et 1 an pour être bien préparé. S'il y a des sommes d'argent qui sont demandées, il faut donc mettre de côté de l'argent, soit travailler pendant les vacances ou l'été et mettre de cet argent de côté pour pouvoir partir ensuite.
Et même au niveau de l'argent, par rapport aux banques, faut pas oublier à contacter notre banque pour savoir si notre carte elle est internationale ou pas.
Ben bien sûr, tout à fait. Il faut faire attention aussi aux paiements avec la carte bancaire auxquels peuvent s'ajouter des frais supplémentaires. Il faut prendre conseil avec votre banquier en fonction du pays où vous allez pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour vous.
Au niveau de la santé aussi, est-ce qu'il y a des démarches à faire si on va loin ?
Alors, lorsque l'on part en Europe, vous pouvez faire la demande de carte européenne d'assurance maladie. Vous pouvez la demander en ligne via le site Amélie. Il faut une quinzaine de jours pour la recevoir, donc c'est pareil, il faut anticiper un petit peu. Cette carte européenne est valable 2 ans et elle vous permet, quand vous êtes sur place, si vous avez des problèmes de santé, de pouvoir vous faire rembourser ensuite en France à votre retour. Néanmoins, je vous conseille de garder tous les justificatifs, de demander des justificatifs de frais si vous avez fait des frais par avance, les consultations chez les médecins là-bas ou les soins infirmiers ou à l'hôpital. Revenez toujours avec des factures certifiées pour pouvoir faciliter le remboursement à votre retour. En ce qui concerne les autres pays d'Europe, les autres pays étrangers, vous pouvez vous renseigner auprès de votre sécurité sociale pour savoir s'il y a des conventions qui sont établies entre la France et ces pays-là. Et souvent, il y a un document à prendre avant de partir, si c'est le cas. Et si ce n'est pas le cas, il faut bien sûr ne pas partir sans une couverture, au moins rapatriement minimum. Donc en tant qu'étudiant, vous avez des mutuelles étudiants, SMEBA ou LMDE qui peuvent vous protéger. Et puis sinon, vous avez d'autres organismes assez connus sur le marché, dont je ne ferai pas la publicité, qui peuvent bien sûr vous protéger. Sachez qu'aussi l'assurance habitation peut vous couvrir sur une période courte pour le rapatriement si vous partez à l'étranger. Donc inutile de repayer une assurance supplémentaire.
Et toutes ces infos-là, en fait, on peut aussi venir au J pour poser des questions si on ne sait pas trop comment s'organiser avant de partir.
Oui, en J Connecté Jeunesse, vous avez tout un espace dédié à l'international. Vous avez des fiches par pays, vous avez des fiches thématiques en fonction de soit vous voulez partir comme étudier ou pour travailler. Et nous sommes là aussi pour vous accompagner et vous conseiller au mieux. Nous pouvons également être le relais auprès des associations qui sont plus spécialisées que nous et qui pourront vous accompagner également dans vos démarches.
Ben merci beaucoup Pascal pour toutes ces informations. Il y a une date à retenir, je crois.
En effet, je propose à tous les jeunes intéressés par l'idée de partir à l'étranger de venir nous rejoindre le jeudi 30 janvier de 14h à 18h au JNG Connecté Jeunesse, puisque là, vous pourrez rencontrer tous les professionnels qui seront présents pour vous expliquer tous les dispositifs dont on vient de parler, c'est-à-dire aussi bien partir étudier, partir en stage avec les universités dans le cadre d'Erasmus, partir comme volontaire, partir travailler au Québec, partir travailler au Portugal, partir aussi en chantier de jeunes. Il y aura aussi plein de rencontres possibles avec des jeunes qui sont déjà partis, qui souhaitent vous faire partager leurs expériences. Il y aura beaucoup de mini-conférences qui vous permettront aussi de vous informer et de poser les questions qui vous intéressent. Donc surtout,
c'est l'occasion, il faut venir.
N'hésitez pas à venir nous voir au GNG Connecté Jeunesse le 30 janvier.
Merci Pascal.
Merci.
On enchaîne tout de suite avec les jeunes en service civique à Unicité. Je suis avec Luna, Awen, Marine et Emmanuel. Bonjour.
Bonjour.
Alors est-ce que vous pouvez vous présenter chacun votre tour, donc votre prénom, votre âge et puis ce que vous faisiez avant de faire le service civique?
Eh bien, moi je m'appelle Emmanuel Arpin. Avant j'étais en prépa en art appliqué et je voulais faire une transition entre le cinéma et l'art. Mais du coup je me suis dit qu'un service civique en cinéma et citoyenneté serait parfait.
Donc moi je m'appelle Awen Blanquet. Avant de faire le service civique à Unicité, j'étais au lycée Sainte-Marie, qui est maintenant Brzezinski puisqu'on fusionnait avec Saint-Serge. Et j'étais en gestion administration, donc ça me pesait pas du tout. Je m'étais arrêté en première et après, bon, bah, je faisais plein de mes journées. C'est ma petite amie qui avait fait un service civique avec un autre de mes amis. Puis moi, bon, bah, on en parlait. C'était Tom qui avait fait un ancien du Mass Authentic qu'on a parlé. Donc, bah, du coup, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas, quoi. Autant essayer.
Moi, c'est Marine. Moi, avant, je faisais une fac de sociologie par dépit et. Moi, ça m'allait pas du tout. Et donc, c'est grâce à... Enfin, pardon. Je faisais... Oh, je suis désolée.
Reprends, pas grave.
Depuis le début.
Non,
reprends okay. Là, juste là où tu as bloqué.
Voilà. Et j'ai fait une passerelle pour m'orienter un peu. Et c'est une amie dans ce processus qui me disait qu'elle avait fait un service civique. Et donc, je suis allée voir un peu... ce qu'ils proposaient, et donc c'est comme ça que j'ai découvert Unicité et le service civique. Voilà.
Donc moi c'est Luna Coelho, j'ai 18 ans, et du coup l'année dernière j'étais en terminale littéraire, je n'ai malheureusement pas eu mon bac, et du coup je ne voulais pas rien faire de mon année, donc je me suis dit un service civique c'est une bonne chose pour moi, surtout que j'ai un ami qui m'en avait parlé, qui avait fait exactement le même programme, donc cinéma et citoyenneté. Et comme j'aime beaucoup le cinéma, je pensais que ça allait vraiment me plaire et je m'y plais vraiment au final, donc je suis contente.
Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer chacun en quoi consistent vos missions ?
Ben, en gros, on fait de l'éducation à l'image et de la sensibilisation au débat et au cinéma. Ouais. À travers plein de films d'auteurs majoritairement.
Alors concrètement, ça se traduit par des ateliers que vous proposez ?
Alors oui, on intervient en fait dans des établissements, donc ça peut être les collèges, les lycées, les FJT, enfin vraiment tous les établissements du Maine-et-Loire. Et du coup, nous, on intervient dans ces établissements pour présenter un film. Donc ça peut être un film choisi par thème ou alors juste c'est nous qui décidons. Et puis suite à ça, avec les élèves, on fait des ciné-débats. Donc en fait, de façon très ludique, à travers des jeux ou toutes sortes de façons. on fait du débat, donc c'est vraiment pour éveiller l'esprit critique et pour pouvoir discuter de cinéma avec eux.
Ça peut être de la discrimination sur l'identité personnelle, sur l'environnement, sur... voilà, on propose un large choix. Et avant ça, par contre, il y a une grosse partie de démarchage. On présente, voilà, notre... un peu ce qu'on fait là, on présente un peu notre service civique aux établissements. On se présente avant, on a d'abord un premier rendez-vous avec l'équipe pédagogique, où on va rencontrer, le personnel, un peu la salle, comment on se débrouille et tout ça. Et les établissements ont des attentes ou pas. Ça peut dépendre un peu de ce qu'ils ont envie de faire durant l'année. Et ça marche plutôt bien.
Les films que vous montrez aux enfants, est-ce qu'il y en a quelques-uns que vous pouvez me citer ?
On avait commencé à regarder Timbuktu, qu'on n'a pas fini parce que bon, il est assez dur à regarder quand même, mine de rien. Il y avait Les Garçons Guillaume à table qui est assez drôle, qui est vraiment un bon film que je recommanderais. Ouais. On a aussi Une bouteille à la mer qu'on n'a pas encore commencé à regarder. Il y avait Hippocrate qu'on a fini, oui. Enfin, il y a pas mal de films. Ouais.
C'est pas que des films d'animation ?
Non, pas du tout.
Et au niveau des âges, je sais pas quel âge vous avez, mais
ça
est-ce que.
Ça peut aller du collégien au lycéen en fait.
D'accord.
Ouais. Il faut aussi des FJT.
Des MLDS, des MAST.
C'est en fonction des classes aussi, on voit avec les professeurs quel film on peut présenter ou quel film on ne présente pas.
Donc vous pouvez faire des ateliers pour des gens de votre âge au final.
Oui, tout à fait, exactement.
Bah, c'est intéressant.
Oui, c'est rigolo.
Est-ce que vous pouvez me dire les aspects que vous préférez dans la mission que vous faites à Unicité?
Je pense que c'est le travail en équipe, en vrai. C'est-à-dire qu'on est tous très différents et pourtant on est, je pense qu'on est tous assez, on se complète un petit peu.
On s'apporte travail, tous quelque chose.
Ouais, on découvre un peu comment faire pour travailler de façon ludique et de façon sérieuse. Et en même temps, on est assez libre, donc on a pas mal de responsabilités, c'est intéressant.
Ce que je voulais rajouter, c'est que avant qu'on intervienne dans les lycées, on a quand même une grosse partie de formation. Et c'est là où on va travailler sur nos activités, sur les animations, par exemple comment on fait pour amener le débat, donc avec des jeux et tout ça. Et donc voilà, ça va être confronter les avis. Moi, c'est ce que j'adore, faire un peu l'avocat du diable quand tout le monde a un peu le même avis avec l'effet de groupe. Et justement...
Casser tout ça.
C'est ça, ouais. Et c'est cool parce que on est vraiment... on éveille un peu l'esprit critique des jeunes, même le nôtre. Et ça nous nourrit, ça nous apprend beaucoup de choses sur même nous-mêmes, sur les autres, sur... on est 20 en service civique, enfin, cinéma et citoyenneté, et on est vraiment tous ensemble pendant... 8 mois,
Là, vous avez commencé il n'y a pas longtemps, c'est ça?
Le 7 octobre.
Le 7 octobre.
Ouais, on a une formation d'un mois, à peu près.
Oui, ouais, c'est ça.
Et du coup, là, on commence vraiment les interventions.
Et après, c'est 7 mois de...
Exactement, 7 mois de travail et d'intervention dans des lycées, des collèges, du coup.
Puis c'est une vraie liberté aussi. Enfin, dans les certains établissements, on va se dire « Ah non, venez, on parle de ça, nous, ça nous branche. Ah ouais, on va faire telle animation, ça peut être... » Vraiment, il y a vraiment une liberté que j'adore aussi, quoi. C'est cool.
Et Luna, pareil, qu'est-ce que tu préfères dans la mission
Moi, ce qui me plaisait aussi beaucoup, c'est d'être justement confrontée à des gens de notre âge. Des collégiens, même des lycéens qui ont mon âge au final, pratiquement. Donc, parce que je trouve que le débat, du coup, il peut vraiment être plus intéressant. Enfin, tu parles à quelqu'un de ton âge, donc c'est tout de suite plus facile.
Les mêmes références aussi.
Professeur, voilà. Y a pas, nous, on n'est pas du tout là pour apprendre. Enfin, un peu quand même, mais c'est pas notre rôle. On n'est pas des professeurs. On est là vraiment pour le partage, principalement.
Et Awen, toi, t'en penses quoi?
Moi, je m'éclate totalement dedans.
Ouais, t'aimes bien aussi.
Ouais.
Alors après, vu que ça fait peu de temps que vous faites cette mission, la question elle va peut-être être un peu décalée, mais est-ce qu'il y a des choses que vous aimez moins, on va dire?
Le démarchage, c'est pas non plus une partie de plaisir.
Ouais, non.
C'est la douleur, en fait.
Ouais, quand on appelle des établissements et qu'ils sont là, ça nous intéresse pas, c'est assez frustrant pour nous, du coup, mais c'est
le côté un peu porte-à-porte, ça c'est moins,
ouais,
c'est moins facile.
C'est pas la partie la plus amusante du tout, ouais. On a qui ont été censés nous rappeler, ils n'ont toujours pas rappelé, ça fait 2 semaines.
Il faut accepter les refus.
Oui, voilà.
Parfois, on a même carrément ignoré, donc
c'est
compliqué.
Ouais.
Et alors, pour la suite, chacun d'entre vous a déjà des projets, des idées après ce service civique?
Alors, en ce qui me concerne, c'est un peu vague, mais normalement, dans le service civique, on est suivi, donc ça, c'est rassurant aussi. Après, pour
ouais, moi, je sais pas du tout. le service civique, c'est aussi une pause pour. Enfin, c'est une pause active. Et on ne sait pas trop. Et moi, j'ai pas envie de me prendre un peu la tête. Je me dis, je me mets à fond pendant 8 mois dans le service civique.
Puis ça va peut-être se construire au fur et à mesure.
Oui, oui. Mais c'est pas non plus la porte fermée aux études ou autre. C'est juste, pendant ces 8 mois, j'ai envie de faire ça. Et puis, grâce à ça, ça nous permet de se dire, moi, j'aime bien être au contact de gens, ou en fait, non, pas du tout. Ou alors, moi, j'adore faire du démarchage, oh mon Dieu, ça me stresse. Et donc, voilà. Et donc, c'est apprendre aussi à comment on gère tout ça, on accueille tout ça. Et,
ça apporte des éclairages, au final, sur ce qu'on aime ou on n'aime pas faire pour la suite.
Mm. En fait, on se découvre un peu nous-mêmes, en même temps. Mm. C'est un peu une aussi pour nous. Donc,
ouais.
C'est bien.
Ah, c'est fou.
Luna, t'en penses quoi ?
Après, on n'a pas trop parlé, mais en fait, notre service civique qui fait partie de l'association Unicité, en fait, c'est un des programmes que propose Unicité, parce qu'il y a plein d'autres programmes comme Booster, Famille en Harmonie, Intergénéreux, enfin, il y en a vraiment beaucoup. Et du coup, il y a aussi un accompagnement justement pour notre projet d'avenir. On n'a pas encore commencé, mais ça va bientôt commencer. Et justement, je compte aussi sur ça pour m'orienter. Et puis moi, j'avais quelques petites idées, mais voilà, c'est un peu flou aussi comme Emmanuel. Je pensais à une formation donc auxiliaire vétérinaire, voilà, donc à domicile avec le Centre européen de formation, ou alors refaire une année de volontariat européen. Oui, voilà, de volontariat européen. Donc voilà, donc ce serait pareil, un peu, c'est un peu comme un service civique, mais dans toute l'Europe. Donc ça me permettrait de voyager, d'aller ailleurs. Et ce serait encore un peu une année de césure, en fait. Parce que ouais, pour moi, mon service civique, c'est une année de césure.
Pour bien construire, en tout cas, la suite.
Me focaliser sur mon avenir et ce que je veux vraiment faire.